le plus haut magistrat du parquet d'Allemagne fédérale, le procureur Siegfried Buback, qui dirigeait depuis 3 ans tous les procès de terroristes et notamment les procès de la bande à Bader. Le procureur qui lançait depuis quelques mois des mises en garde contre une reprise des attentats terroristes a été abattu en plein centre de Karlsruhe, entre son domicile et son bureau. Une moto est arrivée à hauteur de sa voiture, le passager de la moto a tiré une rafale de mitraillette, le haut magistrat et son chauffeur ont été tués sur le coup, une troisième personne a été blessée grièvement. C'est le 10e attentat en 5 ans commis contre un représentant de la justice en Allemagne fédérale. Ces attentats ont fait 3 morts et plusieurs dizaines de blessés.
Rufen sich seine Mullis des Land regieren. Wo Leben und Nobelkanien interessieren. Wo alle Menschen ihr Echt verlieren. Da kann eigentlich nur noch eins passieren. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben.
Ce que l'on vit en Allemagne, c'est actuellement une sorte de guerre civile, une guerre civile qui oppose quelque chose comme 1500 terroristes décidés à tout contre, il faut le dire, 60 millions d'Allemands.
Schwarz ist der Himmel, rot ist die Erde. Gold sind die Hände der Bonzenschweine. Doch der Bundesabwehr stürzt weit ab. Denn Deutschland betragen dich zu knapp. Wo Faschisten Muldis das Land regieren. Wo Leben und Umwelt keinen interessieren. Wo alle Menschen ihr Ich verlieren. Da kann eigentlich nur noch eins passieren. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können.
Les fièvres de 68 passées, il ne resta plus guère face à l'État qu'une poignée de combattants armés et décidés à tout. Hold-up, attentats au plastique, exécutions politiques sont devenus les instruments du terrorisme allemand. Il s'agit d'ébranler un pouvoir officiel haï, car jugé complice objectif de l'impérialisme américain et du capitalisme en général. En Allemagne, cette contestation a pris plus vite que nulle part ailleurs en Europe des formes radicales et a utilisé la violence et la terreur en tant qu'instrument pour provoquer l'État à une réaction de même nature et le disqualifier.
La fraction armée rouge, RAF pour Rote Armee Fraktion. Au tout début des années 70, en Allemagne, un certain nombre de militantes et de militants jugent que l'action légale a atteint ses limites et passent à une autre phase de l'activisme révolutionnaire, la lutte armée. Différents groupes voient le jour sur le sol de la RFA, le mouvement du 2 juin, les cellules révolutionnaires et le plus emblématique, la fraction armée rouge. Jusqu'aux années 90, la fraction armée rouge mène une guérilla urbaine, une guérilla qui comporte des attaques de banques, des attentats à l'explosif, des exécutions. Plusieurs attentats à la bombe visent des quartiers militaires américains. Et celui du 11 mai 72 paralyse pendant plusieurs jours les bombardements américains au Vietnam. Hans Martin Schleyer, patron des patrons, ancien SS, est enlevé, puis exécuté. Siegfried Buback, procureur général fédéral, est exécuté en pleine rue. La liste des actions est longue, on va pas s'y attarder. Dans l'autre camp, Petra Schelm est descendue par les flics. Ulrike Meinhof, puis Andreas Bader, Gudrun Enslin, Jan-Karl Raspe et Ingrid Schubert sont retrouvés morts en prison, des suicides qui ne sont pas très crédibles. Holger Mainz meurt d'une grève de la faim en prison. Là aussi, la liste des militants qui sont morts au cours de cette guerre est trop longue, jusqu'à Wolfgang Grams qui se serait suicidé d'une balle dans la nuque, étonnant non, pour échapper à son arrestation en 1993. Dès les premières arrestations, en 1970, les prisonniers organisent la lutte à l'intérieur des tôles. Ces luttes passent beaucoup par des grèves de la faim. Les conditions de détention des prisonnières et des prisonniers de la RAF sont aussi restées fameuses, parce que c'est là qu'a été inventée la torture blanche. La torture blanche, c'est l'isolement complet, dans des cellules bien propres, toutes blanches, avec personne à qui parler ni aucun bruit venant de l'extérieur. En 1992, la fraction armée rouge décide d'arrêter les actions qui supposent de donner la mort. En 1998, le monde a bien changé depuis 1970, et l'intérêt d'une guérilla en Europe occidentale n'a plus de sens tactique. La RAF décide de s'autodissoudre. L'histoire est finie ? Pas tant que ça. En tout cas, elle laisse la place à l'écriture de l'histoire. Et c'est sans doute dans cette perspective qu'à partir de 2007, au moment où les deux derniers prisonniers de la RAF vont être libérés, une campagne médiatique est lancée pour exiger des excuses et des aveux. Une action judiciaire suit, et des personnes, des militants qui ont déjà passé des dizaines d'années derrière les barreaux, sont mis en accusation, en particulier pour les exécutions du procureur Boubac et du patron des patrons Schleyer. D'autres anciens et anciennes de la RAF sont invités à témoigner, invités assez énergiquement puisque leur refus peut leur valoir jusqu'à 6 mois de prison. Pourtant, tous et toutes refusent de dire quoi que ce soit.
Bewaffnete Roboter überall. Doch Deutschland, wir bringen dich zu Fall. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können.
Deutschland verrecke,
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 damit wir leben können.
Deutschland!
Août 2010, nous voici dans les studios de Radio Canut avec Gisèle et Christa qui, chacune des deux, ont fait partie de la fraction Armée Rouge. Hello Gisèle, hello Christa.
Hello.
Hello.
Nous avons aussi avec nous Ouli qui est un de leurs amis et qui fait partie des groupes de soutien aux prisonniers de Action Directe. Bonjour Ouli.
Hello.
Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter Gisèle ?
Ja, also ich heiße Gisèle und ich war Anfang der 80er Jahre in der RAF organisiert. Das war die Zeit des Frontkonzeptes.
Je m'appelle Gisèle et au début des années 80, je faisais partie de la RAF, de l'organisation de la fraction Armée Rouge. C'était l'époque de la stratégie du Front Concept.
Ich wurde 1983 festgenommen und wurde zu 8 Jahren Knast verurteilt. Ich kam 1991 raus aus dem Knast.
J'ai été arrêtée en 1983 et condamnée à 8 ans de prison. Je suis sortie en 1991.
Zu der Zeit waren noch viele andere Gefangene von uns im Knast und ja, also es war mir ein großes Anliegen, dass die auch rauskommen und da habe ich dafür gekämpft und später dann auch für das Rauskommen, für die Freilassung von den Gefangenen aus Action Direct. Wir hatten ja eine Beziehung zu ihnen auch.
À cette époque, il y avait beaucoup des nôtres qui étaient encore en prison et c'était pour moi une préoccupation que eux aussi puissent sortir. J'ai été active dans cette lutte et plus tard pour la libération des prisonniers d'Action Directe. On était en contact avec eux.
Ich habe auch andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel Ladyfest organisiert in Frankfurt und halt so in der heutigen Zeit aktiv gewesen, was da so die Themen waren und wichtig waren, wo man sich engagiert.
J'ai fait d'autres choses aussi. J'ai organisé des Ladyfest à Francfort et maintenant encore tous les thèmes pour lesquels on peut s'engager.
Et toi, Christa ?
Ja, also ich bin Christa und ich war von 73, also ein halbes Jahr damals in der RAF und bin dann Anfang 74 eingefahren, also gefangen genommen worden.
Je m'appelle Christa et depuis 1973, j'ai été dans la RAF. Six mois à l'époque. Et puis au début de l'année 1974, j'ai été arrêtée.
Und habe 7 Jahre war ich dann im Gefängnis und danach bin ich eben wieder in der RAF gewesen.
Je suis restée 7 ans en prison à ce moment-là. Après, en sortant, je suis retournée dans la RAF.
Das war auch die Zeit, wo Gisèle dann da war und wo es um das Frontkonzept ging, also eine Veränderung der Politik, die also wo es um eine Verbreiterung auch der ganzen Bewegung ging, so etwas knapp gesagt.
C'était aussi le moment où Gisèle était là et où il était question de la stratégie du Frontkonzept. C'était un changement dans la politique du groupe. Il s'agissait d'un élargissement à tout le mouvement, pour le dire vite.
Und dann bin ich 84 wieder eingefahren, also wieder gefangen genommen worden, habe dann 8 Jahre gesessen und bin 92 rausgekommen.
Puis en 1984, j'ai à nouveau été arrêté. Je suis resté 8 ans en tôle et je suis sorti en 1992.
Und ja gut, man ist halt so auf der Suche nach politischem Sinn, also weil die Verhältnisse ja nach wie vor so sind, dass sie verändert werden oder revolutioniert werden müssen.
Et bon, on est toujours à la recherche d'un sens politique, parce que le monde est aujourd'hui à changer ou à révolutionner.
Aber was ich so konkret mache im Moment schwerpunktmäßig ist zu versuchen, antirassistische Initiativen, also konkrete Unterstützung von Flüchtlingen oder eben auch so politische Kampagnen.
Ce que je fais aujourd'hui, c'est surtout des actions antiracistes. C'est du soutien concret à des demandeurs d'asile, des campagnes politiques autour de ce thème.
Si je vous invitais aujourd'hui, c'est parce que toi, Christa, tu as été menacée de Boygehaft il y a quelques mois. Alors pour les auditeurs francophones, il faut préciser ce que c'est la Boygehaft. Il n'y a pas d'équivalent de ça dans le droit français, mais il y a un terme en français qui est astreinte par corps. C'est la possibilité pour un juge, donc en Allemagne, de faire mettre en prison jusqu'à 6 mois quelqu'un qui refuse de donner son témoignage à des flics qui veulent l'entendre. Bon, ça fait longtemps que Christa, t'as rien fait de gravement illégal. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as cette menace aujourd'hui?
Also vordergründig geht's darum, also so wird argumentiert von Seiten der Justiz oder auch in der Presse, dass es darum geht, also den Angriff auf Buback, also die Tötung von Buback, das aufzuklären, in Anführungsstrichen.
Bon, le prétexte. Enfin, l'argument du côté de la justice et aussi du côté de la presse, c'est la volonté de faire la lumière, entre guillemets, sur l'exécution de Buback.
Und es laufen in dem Zusammenhang 3 Ermittlungsverfahren gegen ehemalige RAF-Mitglieder und Gefangene aus der RAF. Das eine ist gegen die Verena Becker, wird jetzt ein Prozess Ende September anfangen. Da geht's Buback, also die Erschießung von Buback.
Dans le cadre de cette affaire, il y a 3 procédures ouvertes contre d'anciens membres de la RAF, d'anciens prisonniers de la RAF. La première de ces procédures, c'est contre Verena Becker. Son procès va commencer fin septembre. Là, il est question de Buback, de l'exécution de Buback.
Dann gibt's noch ein zweites Ermittlungsverfahren gegen Stefan Wisniewski. Das ist auch bezieht sich auch auf die Erschießung von Buback und ein drittes gegen Rolf Heißler, da geht es die, wer Schleyer erschossen hat.
Il y a une autre procédure contre Stefan Wisniewski. Là encore, c'est pour Buback. Et puis la troisième procédure, c'est contre Rolf Heißler. Là, c'est pour savoir qui a descendu Schleyer.
Mais il y a déjà des gens qui ont été condamnés pour ces histoires, non?
Eben, also dafür sind schon Leute verurteilt, für Buback, also 3, glaube ich. Und es sind jetzt die jetzt praktisch, gegen die jetzt die Verfahren in Gang gesetzt worden sind, schon vor einer Weile, es läuft schon eine ganze Weile. Das sind Leute, die schon lange im Gefängnis saßen, aber halt dafür jetzt ausgerechnet nicht verurteilt waren.
Oui, justement. Pour ça, il y a des gens qui ont déjà été condamnés. Pour Buback, 3, il me semble. Mais les gens qui se retrouvent à nouveau poursuivis, c'est des gens qui ont fait déjà pas mal de tôles, mais pas pour ces affaires précisément.
Also Stefan und Rolf, die haben weit über 20 Jahre im Gefängnis gesessen und sind für andere Sachen verurteilt, also auch zu lebenslang verurteilt gewesen, aber eben nicht dafür, also Stefan nicht für Buback und Rolf nicht für Schleyer.
Stefan et Rolf, ils ont fait plus de 20 ans, ils ont été condamnés pour d'autres choses, condamnés à perpète aussi. Mais pas pour ces affaires précisément. Stefan n'a pas été condamné pour Buback et Rolf pas pour Schleyer.
Und das wird jetzt praktisch gegen die inszeniert, die eben dafür noch nicht verurteilt worden sind, obwohl da längst Urteile gesprochen worden sind.
Les gens qui sont visés aujourd'hui, ceux dont les procès sont maintenant mis en scène, ce sont justement ceux qui n'avaient pas été condamnés pour ces affaires-là. Même si d'autres ont été condamnés il y a longtemps.
Und es hat sie früher auch sowieso nicht weiter interessiert. Es ging immer darum, uns halt möglichst hoch zu verurteilen.
Et de toute façon, à l'époque, ça ne les intéressait pas de savoir qui était condamné et pourquoi. Ce qui les intéressait, c'était de nous condamner le plus possible.
Und auch in einem Konstrukt, was sie auch in den Medien, was immer so verbreitet wurde als Bild, als es Redelsführer gab und Mitläufer.
Et ce qui les intéressait aussi, c'était de construire une image avec les médias d'un groupe où il y avait d'un côté les têtes pensantes et de l'autre côté les exécutants.
Und gemäß diesem konstruierten Bild von der RAF wurden auch dann so die Urteile hin konstruiert. Jeder hat also da was irgendwie zugewiesen gekriegt und es hat eigentlich nie groß interessiert.
Et c'est en fonction de cette construction, de cette représentation de la RAF que les condamnations étaient planifiées. La justice donnait à chacun une place dans la structure de la RAF et ça n'intéressait personne finalement.
Und jetzt gibt es praktisch diesen neuen Angriff oder wie soll man sagen, den Hintergrund, da können wir gleich noch was zu sagen.
Et maintenant, il y a ces nouvelles attaques. Il y a des choses à dire sur l'arrière-plan de ces attaques, mais on va y revenir.
Alors, avant d'en arriver à ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait revenir à l'année 77, au moment où Bubak et Schleyer ont été descendus? Est-ce qu'on pourrait dire d'abord pourquoi ils ont été descendus et ensuite voir qui a été condamné pour ces actions-là?
Bubak, der war Generalbundesanwalt in der Bundesrepublik. Das heißt, er war der höchste Bundesanwalt, Staatsanwalt des Staates.
Bon, Bubak était procureur général fédéral. Ça veut dire qu'il était le procureur le plus haut placé d'Allemagne de l'Ouest.
Und Bubak war in der Zeit 74 bis er dann erschossen wurde, bis 77 tätig. Und er war maßgeblich verantwortlich für einige tote Gefangene.
Il était à ce poste depuis 74. Il y est resté jusqu'à ce qu'il soit tué en 77. Et il a été responsable de la mort de plusieurs prisonniers.
Also zum Beispiel Ulrike Meinhof. Bei Ulrike Meinhof haben sie versucht, sie als verrückt zu erklären. Er hat Dinge eingeleitet, sie sollte eine Gehirnoperation bekommen.
Par exemple, Ulrike Meinhof. Ils ont cherché à la faire passer pour folle. C'est Bubak qui a lancé l'idée qu'elle avait besoin d'une opération du cerveau.
Also Ulrike Meinhof war ja eine sehr bekannte Person in der Bundesrepublik. Sie war eine bekannte Journalistin, linksradikale Journalistin und ist dann zur RAF gegangen.
Bon, Ulrike Meinhof était quelqu'un de très connu en RFA. C'était une journaliste connue, une journaliste extrême gauche qui a intégré la RAF.
Und das war aber auch so ein Stachel, weil viele auch Liberale, alle kannten sie. Und dass so eine Person zur RAF geht, also das mussten sie irgendwie wegbekommen.
Mais c'était une épine dans leur pied, parce que même la libérale, en gros la gauche institutionnelle, la connaissait aussi. Et qu'une personne comme elle puisse rejoindre la RAF, ça c'était quelque chose dont il fallait se débarrasser.
Und ihr Bestreben war, Ulrike für verrückt zu erklären. Und für diesen Vorgang war Bubak verantwortlich, letztendlich auch für ihre Tötung dann, ja.
Ce qu'il voulait, c'était de faire passer Ulrike pour folle. C'était Bubak qui était responsable de ça et finalement responsable de son assassinat.
Dann auch Siegfried Hausner war zu seiner Zeit. Siegfried Hausner war in der Aktion Stockholm beteiligt. Er wurde auf Bestreben der Bundesrepublik ausgeliefert in dem Zustand, wo er eigentlich ganz schwer verletzt war. Die Ärzte haben gesagt, er ist nicht transportfähig. Die Auslieferung wurde gemacht und Siegfried Hausner ist gestorben. Ja.
Et puis il y a aussi Siegfried Hausner. C'était aussi à l'époque de Bubak. Siegfried Hausner était impliqué dans l'action de Stockholm. Il a été extradé sur demande de l'Allemagne, alors qu'il était gravement blessé. Les médecins ont dit qu'il n'était pas transportable. Il a quand même été livré et il est mort.
Action Stockholm. Ah voilà.
En 75, l'ambassade d'Allemagne à Stockholm est occupée au mois d'avril par un commando gauchiste. Le gouvernement ne cède pas cette fois-là et deux diplomates sont abattus. Deux terroristes sont tués par la police suédoise.
Ah non, ça c'est TF1. Ah voilà, sur la page de la section belge du Secours Rouge. Le 24 avril 1975, peu avant midi, le commando Holger Mainz de la RAF occupe l'ambassade de RFA à Stockholm, prend en otage 12 fonctionnaires et réclame la libération de 26 prisonniers. La police attaque le bâtiment, deux fonctionnaires dont l'attaché militaire, le comte Andreas von Mirbach, sont tués, ainsi qu'un membre de la RAF, Ulrich Wessel. Un autre membre du commando, Siegfried Hausner, est grièvement blessé et, contre l'avis des médecins suédois, est immédiatement transporté en RFA.
Il n'est pas amené à l'hôpital, mais à la station intensive de la prison de Stammheim, sur l'ordre de Buback, où il meurt faute de soins adéquats le 14 mai.
Holger Mainz wurde im Hungerstreik umgebracht. Er wurde eigentlich gezielt verhungern gelassen. Das war auch in der gleichen Zeit.
Holger Mainz a été tué en grève de la faim. Ils l'ont laissé mourir de faim de façon ciblée. C'était toujours la même époque.
Attends, comment est-ce qu'on peut parler de quelqu'un qui aurait été tué en grève de la faim? Quand on fait une grève de la faim, c'est qu'on peut s'attendre à mourir, non?
Ja, es war gut, das ist richtig, aber und das war eben Buback war eben der, also der Bundesanwalt, der eben auch die Oberhoheit sozusagen über die Haftbedingungen von uns hatte und auch ja gut, was im Einzelnen in den Bedingungen von bei den Gefangenen lief.
Oui. Oui, c'est vrai, mais Buback était le procureur qui décidait de nos conditions de détention. C'est lui aussi qui était responsable des conditions spécifiques pour chacun de nous.
Und es war in diesem Hungerstreik schon sehr früh sichtbar, dass es da eine Differenzierung gab, also dass sich da ein Interesse gezeigt hat der Gefangenen, die sehr exponiert waren, die auch, dass es da ein unterschiedliches Vorgehen gab bei den einen, die mit Zwangsernährung zwar sehr brutal zu traktieren, aber auf jeden Fall damit, also sie nicht verhungern zu lassen sozusagen.
Et dans cette grève de la faim, il a été très rapidement clair qu'il y avait une différenciation de fait. D'un côté, les uns ont subi une alimentation forcée très brutale, mais en tout cas pour pas ne laisser mourir de faim.
Und andere, wo es eigentlich irgendwie ihnen zu Pass kam, dass vielleicht der eine oder andere von denen, die sie so als exponierte Personen betrachtet haben und die dann später auch Prozesse in Stammheim hatten, dass die zu Tode kommen.
D'un autre côté, pour les prisonniers qui étaient particulièrement mis sur le devant de la scène, en gros ceux qui ont eu leur procès à Stammheim après, la possibilité était laissée que l'un ou l'autre meure.
Und bei Holger war es halt so, da wurde auch Zwangsernährung gemacht und aber in einem Maß,
pour Holger, ce qui s'est passé, c'est que lui aussi a subi une alimentation forcée, mais c'est une question de quantité.
Es gibt eine Art von Zuführung von Ernährung, wenn jemand hungert, die praktisch den Abbauprozess beschleunigen kann. Und das war so eine Art von Zwangsernährung. Das hat man schon, das ist schon deutlich geworden, als er auch noch gelebt hat und hat es auch beschrieben, was sie dabei machen.
Il y a une manière de nourrir des gens quand ils refusent de manger qui peut accélérer les dommages. Des quantités de nourriture qui coûtent plus d'énergie au corps qu'elle lui en apporte. Ce qu'ils ont fait avec lui, c'était assez clair. Quand il était encore en vie, il a décrit ce qui se passait.
Und er ist dann war ganz schwach schon und der Knastarzt ist in Urlaub gefahren. Ziemlich gezielt offensichtlich.
Et puis après, il était déjà très faible et le médecin de la prison est parti en vacances. Des vacances assez ciblées, visiblement.
Und der Anwalt, der das noch mitgekriegt hat, dass er in Lebensgefahr ist, der hat versucht, noch was zu machen und noch versucht irgendwie, dass er nicht stirbt. Und da ist halt Buback derjenige gewesen, der das abgeblockt hat, der das auch irgendwie da ihm zugeguckt hat, dass er stirbt.
Son avocat a compris qu'il était en danger de mort et il a essayé de faire quelque chose, essayer de l'empêcher de mourir. Et c'est Buback qui a empêché l'avocat d'agir. Il a vraiment regardé Holger mourir.
Natürlich wäre die wirkliche Lösung in dem Hungerstreik gewesen, dass unsere Forderung erfüllt worden wäre, die war damals Aufhebung der Isolation und das war eben auch das, wofür Buback zuständig war, die Haftbedingungen.
Bien sûr, dans cette grève de la faim, la vraie solution, ça aurait été que nos revendications soient satisfaites. À ce moment-là, ce qu'on demandait, c'était la levée de l'isolement. Et pour ça aussi, c'est Buback qui était responsable, puisque c'est lui qui était responsable de nos conditions de détention.
Die von bei Ulrike von absoluter kam also absoluter Totentrakt, also von absoluter Geräuschisolation und Sichtisolation ging bis halt zu einfach Isolation von anderen Gefangenen, an Einschleusung von Spitzeln, dann gezielte Kontakte zu konstruieren, die dann Spitzel waren.
Cette isolation allait de ce que subissait Ulrike, qui était dans un véritable quartier de la mort, une complète isolation visuelle et auditive, à l'isolation des autres prisonniers, l'introduction de dénonciateurs, le fait d'autoriser certains contacts ciblés avec des gens qui auraient la réalité étaient des balances.
Und so das hat, das ist, dafür ist alles Buback verantwortlich und der hat das auch, ja, der hat das auch im Grunde, da gibt es auch so Bemerkungen von ihm dazu, der hat das auch gegen die Gefangenen so als Krieg begriffen, also als Auftrag, die zu vernichten.
Voilà, pour tout ça, c'est Buback qui était responsable. Et oui, il a des remarques de lui contre les prisonniers où il qualifie la situation de guerre. Et donc, pour lui, sa mission était d'anéantir les prisonniers.
Also die als politische Subjekte zu vernichten und eben, wenn es nicht anders geht, sie auch physisch zu vernichten. Das war so wirklich sein Auftrag, den er so gesehen hat. Und ja, das war eben auch die Person dann.
De les anéantir comme objet politique et s'il n'y avait pas d'autre moyen, de les anéantir physiquement. C'est vraiment comme ça qu'il voyait sa mission. Et oui, Buback, c'était ça.
Et lui, il a été descendu en 77. La même année, Schleyer a été descendu aussi. Schleyer, c'était qui ?
Ja, Schleyer war damals war der, der Chef vom BDI und also von den industriellen Vereinigungen praktisch eine sehr exponierte Person.
Schleyer à l'époque, c'était le chef du BDI, l'équivalent allemand du CNPF. C'est-à-dire que du côté des industriels et de leurs organisations, c'était un personnage important médiatiquement.
Der sehr starken Einfluss auf die Politik hatte. Also da gab es verschiedene Initiativen, auch von so einem klassennivellierenden Konstrukt, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, konzertierte Aktion, ne? Also wo er da sehr exponiert war und überhaupt...
Il avait une grande influence sur la vie politique. C'est une époque où le camp des industriels prenait beaucoup d'initiatives, comme ce qui s'appelait la konzertierte Aktion. La konzertierte Aktion... C'était une offensive de pacification sociale à travers une collaboration entre le gouvernement, les patrons, les syndicats et les banques.
Also in der Politik lief praktisch nichts ohne ihn.
En politique, rien ne pouvait se passer sans lui.
Er hat eine lange politische Geschichte. Also der war schon in der Studentenzeit in der faschistischen, der Nazi-Studentenorganisation in Heidelberg. Also hat sich da schon exponiert in antisemitischen Initiativen, also praktisch jüdische Studenten aus der Uni rauszuwerfen und so weiter, also war da schon exponierter Nazi.
Il avait une longue histoire politique. Quand il était étudiant, il faisait partie d'une organisation universitaire nazie à Heidelberg. À ce moment déjà, il commençait à prendre de l'importance dans des actions antisémites. Par exemple, expulser les étudiants juifs de l'université. À l'époque, il était déjà un nazi haut placé.
Und ist dann in der Zeit, wo die Tschechoslowakei besetzt wurde von den Deutschen, ist er praktisch die ökonomische Leitung des besetzten Gebietes. Also er ist also für ja er ist praktisch für die Vernichtungspolitik im besetzten in der besetzten Tschechoslowakei ist er mitverantwortlich gewesen an vorderer Stelle.
Et puis, quand la Tchécoslovaquie a été occupée par les Allemands, c'est lui qui a assuré la direction économique des territoires occupés. Il a fait partie des responsables de la politique d'extermination en Tchécoslovaquie occupée.
Und das war seine Geschichte und er ist dann halt direkt nach dem Krieg hat er sich halt wie die meisten rausgeredet, dass er das einfach irgendwie nur alles, dass er eigentlich gar nicht so richtig und so weiter nicht so dahinter stand und.
C'est son histoire. Et puis, directement après la guerre, il s'en est sorti en niant, comme la plupart des autres d'ailleurs. Il a dit qu'il n'avait pas fait grand-chose, que ce n'était pas par conviction, etc.
Und es gab dann auch halt Politiker in den Anfängen der BRD, die dann auch gesagt haben, der war gar kein richtiger Nazi und so weiter. Er wurde dann relativ bald freigelassen aus der Kriegsgefangenschaft.
Dans la RFA naissante, il y a eu des politiciens pour prendre sa défense. Pour dire qu'il n'était pas un véritable nazi. Il a été un peu prisonnier, mais pas longtemps.
Und ist dann ganz schnell steil aufgestiegen in der BRD, als der ökonomische, gewichtige Mann in der BRD zu der Zeit, kann man sagen, ne? Mit dieser Geschichte.
Après sa libération, il a fait une ascension fulgurante. Dans la RFA, il est rapidement devenu l'homme important pour ce qui touchait des questions économiques. Et ça, avec cette histoire qui était la sienne.
Und der ist halt entführt worden und es ging darum, dass die Gefangenen befreit werden, die Gefangenen aus der RAF. Und ja, das ist nicht Die BRD hat das als Staatsräson begriffen, das auf keinen Fall zu machen. Die haben auch von Anfang an sein Leben auch eigentlich riskiert. Also denen war das dann letztlich auch egal. Und er ist dann halt auch erschossen worden.
Et puis, il a été enlevé. La revendication, c'était la libération des prisonniers de la RAF. Et bon, l'État allemand a considéré qu'il relevait de la raison d'État de ne pas libérer les prisonniers. Ils ont consciemment risqué sa vie. Finalement, ça leur était égal. Et il a été descendu.
Christa vient d'aller un peu vite en nous parlant de Schleyer. Voici ce que donne un peu de recherche. Schleyer est né en 1915. À l'âge de 16 ans, il entre dans les jeunesses hitlériennes. À 18 ans, il entre dans les SS où il devient Untersturmführer. Il entre officiellement au NSDAP, le parti nazi, en 1937. En 1935, il avait accusé son groupe étudiant de manquer d'esprit national-socialiste et quitté celui-ci à cause de la mollesse de ce groupe pour exclure les juifs de l'université. Président du corps étudiant à l'université de Heidelberg, il obtient ensuite le même poste à l'université d'Innsbruck après l'Anschluss. Quand la Tchécoslovaquie est occupée par les Allemands, c'est lui qui a assuré la direction économique des territoires occupés. Il a fait partie des responsables de la politique d'extermination en Tchécoslovaquie occupée. En 1945, après la défaite de l'Allemagne nazie, il est interné, mais il est rapidement considéré comme simple sympathisant et dispensé de peine. C'est le moment où les Alliés veulent reconstruire l'Allemagne, entre autres en réutilisant certains cadres nazis. En 1937, lors de son enlèvement, il est directeur du conseil d'administration de Daimler-Benz, président de la Fédération industrielle allemande et président du syndicat des employeurs allemands, l'équivalent du CNPF. Et donc, après qu'il ait été descendu, à un moment, il y a des gens qui ont été condamnés pour ça et pour Schleyer.
Also bei Buback gab es, das finde ich jetzt auch nicht so sehr wichtig, aber es gab zu allen, also bei Buback waren es, ich weiß es auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, im Einzelnen, wer alles für was verurteilt worden ist, weil mir das auch eigentlich nicht so wichtig ist.
Eh bien, pour Buback, en fait, je ne me souviens plus. Je ne trouve pas que ça soit très important. Franchement, je ne sais plus qui a été condamné pour quoi individuellement. Je sais plus parce que ça m'est à peu près égal.
Sie haben uns halt alle, also wie ich vorhin schon gesagt habe, sie haben uns irgendwas zugeordnet und uns war das auch nie so wichtig. Also wir, es war klar, dass wir verantwortlich sind für die Politik, die in der Zeit lief, wo wir Teil der RAF waren.
Comme j'ai déjà dit, ils nous ont attribué des délits à chacun et pour nous, ce n'était pas très important. Il était clair que nous nous sentions responsables pour la politique de la RAF à l'époque où on en faisait partie.
Und was sie uns dann so zugeschrieben haben, das war für uns nichts wichtig, nicht bedeutsam.
Et ce qu'ils nous ont attribué, pour nous, ce n'était pas important. Ça n'avait pas de signification.
Weil wir wussten ja, wenn wir so einen Kampf aufnehmen, dass wir gefangen genommen werden und lebenslang kriegen oder vielleicht auch, also viel, sind auch ja welche erschossen worden.
Parce que de toute façon, on savait, quand on se lançait dans cette lutte, qu'on serait arrêté un jour ou l'autre, qu'on serait condamné à perpétuité, ou même qu'on se ferait descendre, comme c'est arrivé à pas mal de gens.
Und für die Staatsseite war es auch nicht bedeutsam, das hat sie auch nicht groß, sie haben die Konstrukte, das ist jetzt nicht wichtig, weil sie da alles in Prozessen getrieben haben, das war auch zum Teil richtig absurdes Theater.
Et du côté de l'État, ça n'avait pas de signification non plus. L'essentiel, c'était de nous faire tous passer devant les juges, ça a été une partie de sacré théâtre de l'absurde.
Aber die haben, es war immer wichtig, irgendjemand für das, was war, zu verurteilen, dass sie sagen konnten, der ist dafür verurteilt, haben natürlich auch behauptet, das war so und so und so, egal wie, also sie wussten nie wirklich, was war. Ne?
L'essentiel, c'était de condamner quelqu'un pour chaque chose qui s'était passée, n'importe qui. Ils condamnaient un tel ou un tel pour telle action, ils prétendaient aussi que c'était bien cette personne qui avait fait cette action. Mais en réalité, ils n'ont jamais su ce qui s'est passé précisément.
Sie haben im Grunde nie so viel gewusst. Also sie haben halt dann irgendwas konstruiert, was so in ihre Bilder gepasst hat, die sie vermitteln wollen. Eine Bande mit ein paar Chefs und so ein paar, die dann irgendwie so hinterher gedackelt sind.
Au fond, ils n'ont jamais su grand-chose. Ils ont bien inventé un schéma qui allait avec les images qu'ils voulaient donner. Surtout l'image d'une bande avec quelques chefs et ceux qui trottinaient derrière.
Und das sollte rüberkommen und auch, dass die Justiz für alles jemand verurteilt, ne? Aber mehr war auch nicht wichtig, ne?
C'était ça qui devait en ressortir. Et aussi que la justice condamne quelqu'un pour chaque action. Mais c'est tout, ça suffisait.
Ja, oft hing es dann zum Teil schon damit zusammen, welche Leute sie vorher, wenn die noch in der Illegalität waren, in der RAF waren, aufgebaut haben, also Pressekampagnen liefen. Also zum Beispiel zu Christian Klar, es war eigentlich egal, welche Aktion gelaufen ist, immer kam Pressemeldung, Christian Klar war dabei.
Oui, souvent, ça dépendait aussi de qui ils avaient ciblé au moment où les gens étaient encore dans la clandestinité, dans la RAF, avant de se faire arrêter. Il y avait des campagnes de presse sur des gens. Christian Klar, par exemple, pour n'importe quelle action, la presse annonçait que Christian Klar y avait participé.
Und Brigitte Mohnhaupt wurde auch sehr in der Presse aufgebaut und diese beiden, die wurden für alle Aktionen, die 1977 liefen, verurteilt.
Brigitte Mohnhaupt a aussi été beaucoup montée en épingle par la presse et eux deux ont été condamnés pour toutes les actions qui ont été menées en 1977.
Aber mir geht es selber so, wenn ich die Frage höre, wer wurde für was verurteilt, ich muss immer überlegen, weil es hat uns nicht groß interessiert. Es war natürlich nicht unwichtig, für wie viel man verurteilt wurde, aber diese Zuordnung, das war nicht unsere Welt, das war nicht unsere Realität.
Mais c'est pareil pour moi. Quand on me pose la question de savoir qui a été condamné pourquoi, il faut toujours que je réfléchisse. Ça ne nous intéressait pas. C'était important de savoir à combien on était condamné. Mais cette classification, ce n'était pas notre monde, ce n'était pas notre réalité.
Also die zu der Phase, wo wir jeweils in der RAF waren, das war unsere Verantwortung. Das ist ja das, würde ich sagen, das Charakteristische für einen politischen Kampf.
Pour les moments où on était dans la RAF, ce qui se passait était notre responsabilité commune. Je dirais que c'est ce qui caractérise un combat politique.
Wir haben diskutiert, wie sieht die politische Situation aus, was wollen wir machen? Und das wurde ausdiskutiert, bis alle, ja, bis wir gesagt haben, okay, das ist es.
On discutait sur la situation politique, sur ce qu'on voulait faire, et les discussions duraient jusqu'à ce qu'on se dise, okay, c'est comme ça.
Und so, und gemacht hat, das hing, jeder, das hing von Fähigkeiten ab, aber das war völlig unwichtig, ja, letztendlich.
Et puis, ce que faisait chacun, ça dépendait des capacités de chacun. Mais finalement, ça n'avait pas d'importance qui faisait quoi.
Mais après, Christian Klar et Brigitte Mohnhaupt, entre autres, ont été arrêtés et ils ont été condamnés pour les exécutions de Schleyer et de Buback et ils ont fait leur temps de prison.
Ja, sie wurden zu ja, sie wurden auch wegen Erschießung von Ponto festgenommen. Das war auch in der Zeit 77. Also sie sind zu mehrfach lebenslänglich verurteilt worden.
Oui, ils ont été condamnés pour l'exécution de Ponto. C'était aussi en 77. Ils ont été condamnés plusieurs fois à perpétuité. Cinq fois à perpétuité.
Und es war 2006, 2007, die Jahreswende, fing dann die stärkere Debatte in den Medien an.
Et c'est fin 2006, début 2007 que le gros débat a commencé dans les médias.
Also es gab Anträge für ihre Freilassung. Sie waren außer Birgit Hogefeld die zwei letzten, die aus der RAF im Knast waren. Sie waren am längsten drin.
À ce moment-là, ils ont demandé leur libération conditionnelle. C'était les deux seuls de la RAF qui étaient encore en prison, à part Brigitte Hogefeld, qui avait été arrêtée bien après. C'était ceux qui avaient passé le plus longtemps.
Und es gab gerichtliche Anhörungen dafür, fürs Rauskommen. Also dieser rechtsstaatliche Weg ist gelaufen und die Freilassung stand bevor.
La procédure légale a suivi son cours, il y a eu des auditions et la libération conditionnelle était en vue.
Und dann fing eine Kampagne in den Medien an, dagegen, dass sie rauskommen, praktisch.
Et à ce moment-là, une campagne a commencé dans les médias, une campagne contre leur libération.
Und also die, es gab am Anfang, ich habe das noch ein bisschen verfolgt, gab es Stimmen von Liberalen, auch von ehemaligen Justizministern, die auch gesagt haben, klar, die Zeit ist das ist der rechtsstaatliche normale Weg, sie sollen rauskommen.
Il y a eu des voix au début, je me souviens, des gens de la gauche institutionnelle qui disaient que, bien sûr, ils avaient fait leur temps, ils devaient sortir, c'était la procédure légale normale.
und aber so eine, also CSU, und man kann es nicht mehr so ganz auseinander dividieren. Die haben auch Angehörige von Opfern dann mobilisiert, in die Medien gezogen. Also es war eine massive Medienkampagne.
Mais il y a eu les autres, la CSU, mais pas seulement, qui ont mobilisé les familles des victimes dans les médias, qui les ont fait venir dans les médias. Ça a été une campagne médiatique massive.
Und es ist quasi dann darauf rausgelaufen, also eigentlich eine Sache war noch absurd, sie sollen sich entschuldigen, aber was ist denn Entschuldigung bei sowas? Und aber es hat sich quasi darauf zugespitzt, sie sollen nur raus dürfen, wenn sie jetzt Aussagen machen.
Et le discours, c'était plusieurs choses. Une chose un peu absurde, c'est qu'on exigeait d'eux qu'ils s'excusent. On se demande bien ce que signifient des excuses dans un cas comme ça. Mais après, ce qui ressortait principalement, c'est qu'ils ne devaient être autorisés à sortir que s'ils faisaient des révélations.
Also wenn sie zum Beispiel sagen, wer hat Bubak erschossen, wer hat Schleyer erschossen.
Par exemple, qu'ils disent qui a tué Bubak, qui a tué Schleyer, qui tenait l'arme.
Mais ce que tu dis, ça veut dire que des gens ont passé tout ce temps en prison sans que la justice ait réussi à déterminer qui avait tiré.
Ja, die Justiz hat nicht unsere Strukturen geblickt oder wer was gemacht hat, weil wir haben keine Aussagen gemacht.
Oui, la justice n'a jamais rien su de notre structure interne. Et oui, parce qu'on n'a jamais fait de déclaration.
Und das haben sie dann quasi verlangt von ihnen. Sie sind trotzdem rausgekommen, weil das konnten sie nicht anders machen.
Et donc, il a été exigé des prisonniers qu'ils parlent. Ils sont sortis quand même, parce que légalement, il n'y avait pas d'autres possibilités.
Aber das hat dann so diese Geschichte angeschoben, jetzt neue Verfahren zu eröffnen. Es muss jetzt rausbekommen werden, wer was gemacht hat.
Mais ça a lancé toute cette histoire. Ça a poussé à lancer des nouvelles poursuites. Il faut absolument qu'ils découvrent qui a fait quoi.
Und in dem Kontext sind dann auch die Zeugenladungen gelaufen. Und die Situation, dass es drei neue Ermittlungsverfahren gibt. Das eine fängt im September an.
Et c'est dans ce contexte qu'il y a eu les convocations de témoins. Et aussi les trois nouvelles instructions avec un procès qui s'ouvre en septembre.
Ich würde gerne noch was zu sagen, also auch noch mal zurück zu deiner ersten Frage, warum irgendwie Beugehaft jetzt und so.
Je voudrais bien dire encore quelque chose sur ta première question à propos de la Beugehaft.
Weil es hat sich daraus sowas entwickelt. Also erstmal gut, sie haben Christian und Brigitte freilassen müssen jetzt letztlich und damit ist praktisch das, sie haben keinen Gefangenen mehr so richtig in ihrer Hand.
Parce qu'il s'est passé quelque chose avec ça. Bon, d'abord, il a bien fallu qu'ils libèrent Christiane et Brigitte. Et avec cette libération, ils n'avaient à peu près plus de prisonniers entre leurs mains.
Birgit Hogefeld, die noch nicht freigelassen worden ist, die ist im Freigang. Und da läuft halt so ein Begnadigungsverfahren noch, also das... ist die noch drin ist.
Brigitte Hogefeld, la dernière qui n'a pas encore été libérée, elle est en liberté conditionnelle et il y a un recours en grâce pour elle.
Aber jedenfalls die beiden, die sie auch so aufgebaut hatten als Redelsführer, die waren jetzt draußen oder kamen raus.
Mais en tout cas, les deux derniers de ceux qui avaient été érigés en patron de la RAF étaient tout d'un coup libres ou allaient être libérés.
Und es ist in dem Ganzen, auch also wenn man jetzt so gesamte Geschichte der RAF nochmal anguckt, ist was drin, was sie, was ich immer so als Stachel bezeichne, der ihnen auch noch im Fleisch sitzt. Das ist zum einen, dass sie auch die RAF nicht militärisch besiegt haben.
Et quand on regarde toute l'histoire de la RAF, il reste quelque chose, ce que je décris comme une épine qui reste dans leur pied. C'est d'abord le fait qu'ils n'ont jamais vaincu la RAF militairement.
Also die RAF hat sich 92 die tödlichen Aktionen eingestellt, also hat dazu eine Erklärung abgegeben. Und 1998 hat sie sich aufgelöst, aber sie ist in dem Sinne nicht militärisch besiegt worden.
En fait, en 92, la RAF a décidé d'arrêter les actions qui impliquaient de tuer. Elle a annoncé dans un communiqué. Et en 1998, elle s'est autodissoute. Mais dans ce sens, elle n'a pas été vaincue militairement.
Also sie hat sich aufgelöst, weil mit der politischen Begründung, dass die Zeit nicht mehr die ist, in der eine Stadtguerilla was bewirken kann.
Elle s'est dissoute avec une motivation politique. Elle a considéré que l'époque n'était plus à la guérilla urbaine, que ce n'était plus comme ça qu'on pouvait arriver à quelque chose.
Also eine politische Begründung, nicht weil sie keine Kraft mehr hatten oder sonst was, sondern dass eine politische Entscheidung, dass das nicht mehr richtig ist. Ne?
La décision a bien été prise sur des bases politiques et pas parce que les gens n'en pouvaient plus ou quoi que ce soit dans ce genre-là. Il s'agissait bien d'une décision politique parce que ça n'était plus juste.
Und das ist der eine Stachel. Und der andere Stachel ist auch, dass wir eben, was Gisel schon erwähnt hat, dass wir nie Aussagen gemacht haben.
La seconde épine dans leur pied, c'est ce que Gisel vient d'évoquer. C'est le fait que nous n'ayons jamais fait aucune déclaration à la police, aucune déposition.
Also es gab natürlich Einzelne, die zusammengebrochen sind, aber nicht so viele und oder welche, die sich richtig haben rumdrehen lassen, die auch heftig benutzt werden von der Justiz und vom Staat und von der Presse, aber
bien sûr, il y en a quelques-uns qui ont craqué psychologiquement, mais très peu finalement, et quelques autres qui ont été retournés. Ceux-là sont beaucoup utilisés par la justice, par l'État et par la presse.
Insgesamt haben wir keine Aussagen gemacht und was Gisel auch schon erwähnt hat, sie wissen eigentlich auch nicht viel über uns. Ne?
Mais dans l'ensemble, on n'a pas fait de déposition. Et ce que Gisel a déjà dit, ils ne savent finalement pas grand-chose de nous.
Und das ist eben auch, auch ein Stachel, der da so noch sitzt, weil sie uns nicht gebrochen haben als politische Subjekte.
Et c'est une épine qui reste solidement plantée, parce qu'ils ne nous ont pas brisé en tant que sujet politique.
Und auch zusammen, auch dass wir irgendwie zwar jetzt keine Gruppe in dem Sinne mehr sind, aber wir aber trotzdem auch noch gemeinsam auch zu dieser Geschichte stehen.
Et qui n'ont pas brisé notre cohésion, parce que même si nous ne sommes plus un groupe aujourd'hui, nous restons unis pour revendiquer cette histoire.
Und da gab es dann wirklich mal auch so ein Interview mit so einem entscheidenden Staatsanwalt, der da drin auch mitmischt an entscheidender Stelle. Der hat dann gesagt, also worum es ihnen ginge, wäre die moralische Auflösung der RAF.
Il y a une interview d'un procureur important, un type qui mêlé à tout ça, un des points décisifs de cette histoire. Il a dit ce qui lui importait à lui, c'était la dissolution morale de la RAF.
Die RAF gibt's ja schon lange jetzt nicht mehr, das ist jetzt schon weit über 10 Jahre. Also was soll das heißen? Das soll heißen, dass es eine moralische Zersetzung oder sowas.
La RAF n'existe plus depuis plus de 10 ans, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une décomposition morale de la RAF.
Und wie er das gemeint hat, war, dass er die Hoffnung hatte, so hat er das richtig formuliert in so einem Interview, dass wir oder einige von uns anfangen zu reden, ne? Über das, was war.
Ce qu'il voulait dire, en fait, ce qu'il a réellement formulé dans l'interview, c'est qu'il avait l'espoir que certains d'entre nous se mettent à parler, à raconter ce qui s'est passé.
Und das war so die Hoffnung praktisch damit uns, also nochmal so eine moralische Vernichtung, in dem, das wäre so ihr Lieblingsszenario gewesen, wenn jeder so jeden, ne? Das war ich nicht, das war der und ich war das nicht und ich war das nicht und so, ne? So mele mele mu, raus bist du. Wenn der und der es nicht war, kann es nur der Dritte gewesen sein und so, das hätte ihm gefallen. Ne?
C'était ça son espoir, d'arriver à une destruction morale de la RAF. Le scénario qu'ils auraient préféré, ça aurait été que chacun se mette à dire « c'est pas moi qui a fait ça, c'est un tel, et pour telle action et telle autre, et moi je n'y suis pour rien. » Et qu'une fois que machin et truc auront dit qu'ils n'avaient pas participé à l'action bidule, ça aurait été une telle troisième personne qui serait restée. Et comme ça, ils seraient arrivés à tout savoir.
Und darauf zielen auch, also die Verfahren zielen darauf, aber auch natürlich, um zu sagen, ihr werdet nie Ruhe haben, ne? Wir werden euch immer hinterher sein.
C'est certainement l'un des buts des nouvelles instructions de la justice. Mais bien sûr, il y a un deuxième but. C'est de nous dire, vous ne serez jamais tranquille, on sera toujours après vous.
Und auch das als Signal an die jetzigen politischen Prozesse, wenn ihr so weit geht, den Staat anzugreifen, das werdet ihr bereuen sozusagen. Ne? Seht, was wir mit denen machen auch, dass das nie aufhört. Ne? Das ist auch wichtig.
Et bien sûr, c'est aussi un signal pour les gens qui aujourd'hui sont actifs politiquement. Un signal pour leur dire, si vous vous attaquez à l'État, vous allez le regretter. Vous voyez ce qu'on fait avec ces gens-là. Pour leur faire comprendre que ça ne s'arrête jamais. C'est sûr que c'est très important.
Aber sie haben halt auch gedacht, Gott meine, wir sind jetzt alle so um die 60 oder schon über 60, ne? Und wenn jetzt dann eine Drohung kommt mit richtigen Verfahren, was nochmal lebenslang bringen kann, oder auch mit einem halben Jahr Beugehaft, dass man dann doch vielleicht der ein oder andere dann Angst kriegt, ne? Weil
Mais ils ont aussi pensé qu'on a tous autour de 60 ans, et mon Dieu, si une réelle menace pèse à nouveau sur nous, avec peut-être des nouvelles peines de prison à vie à la clé, ou 6 mois de Beugehaft, que l'un ou l'autre prenne peur.
Ja, weil wir ja auf eine Weise jetzt unser Leben in politischen oder wie auch Zusammenhängen leben und dass sie uns damit jetzt irgendwie erschrecken können, das war schon so ein Kalkül, ne?
Parce que maintenant, on a nos vies dans un contexte plus ou moins politique. Ils ont fait ce calcul qu'ils arriveraient à nous effrayer.
Mais toi, quand t'es allé à ta convocation, c'était quoi les questions qui t'ont posées et auxquelles tu voulais pas répondre?
Ich habe gar keine Fragen beantwortet. Also das ist was Prinzipielles.
Je n'ai répondu à aucune question, c'est un principe.
Oui, mais c'était quoi les questions? Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir?
Aber wenn du prinzipiell sagst, du machst keine Aussagen, kriegt man die Fragen schon gar nicht vorgelegt.
De toute façon, quand tu dis que tu ne répondras pas, on te pose même pas les questions.
Doch, sie haben da was vorgelegt. Also ich meine, das hat natürlich noch eine besondere Absurdität, dass die letzten, die sie jetzt vorgeladen hatten, alle 77 im Knast saßen, also in der Zeit, wo eigentlich die Aktion Buback war.
Si, à moi, ils les ont posé. Bon, il faut dire que c'était déjà particulièrement absurde, parce que les derniers qui ont été convoqués, dont moi, on était tous en prison en 77, à l'époque où Buback a été tué.
Und das ist natürlich durchsichtig, dass es darum ging, da irgendwie so Leute einfach unter Druck zu setzen, die vielleicht irgendwas plaudern.
Et c'est vraiment évident cette tactique de mettre la pression sur des gens pour leur faire raconter quelque chose, n'importe quoi.
Also es ging zum Teil um ganz banales Zeug, also ob das meine E-Mail-Adresse und das meine mein Telefon ist, also woraus sie dann einem zu wissen geben, dass sie das alles abhören und kontrollieren.
Bon, les questions étaient en partie complètement banales. Est-ce que ça c'est bien mon adresse mail? Est-ce que ça c'est bien mon numéro de téléphone? Juste pour bien me faire comprendre qu'ils lisent mes mails et écoutent mes conversations téléphoniques.
Und dann ging es darum, ob ich mit jemand darüber geredet habe, was damals war, oder jemand mit mir darüber geredet hat, ne?
Et après, il était question de savoir si j'avais parlé avec quelqu'un de ce qui s'est passé à l'époque, ou si quelqu'un en avait parlé avec moi.
Und ich meine, es ist schon relativ lächerlich. Also es ist wirklich so ein Ding, dass sie dachten, vielleicht halten das doch manche nicht aus, den Gedanken nochmal in den Knast zu kommen und reden irgendwas, ne?
Et bon, c'est assez ridicule de leur part. Mais ça vient tout du fait qu'ils espèrent que l'un ou l'autre de nous ne supporte pas l'idée de retourner en prison et se mettent à parler. N'importe quoi, pourvu qu'ils parlent.
Und ja, ich glaube, man darf sich's nicht so vorstellen. Es geht ihnen wirklich nicht drum, da jetzt die Wahrheit rauszufinden, sondern einem zum Kollaborieren bringen.
Ganz genau.
Mais il ne faut vraiment pas imaginer qu'il s'agirait pour eux maintenant de découvrir la vérité. Ce qu'ils veulent, c'est nous forcer à collaborer.
Und das, damit würden wir unsere Geschichte im Nachhinein denunzieren. Und so soll es dann auch dastehen in der Öffentlichkeit. Also das sieht man an manchen absurden Fragen oder dass du im Knast warst, als die Sachen liefen.
Et comme ça, petit à petit, ils veulent qu'on renie toute notre histoire. Et c'est à cette représentation publique qu'ils veulent arriver. On voit bien ça à l'absurdité de certaines questions, ou encore au fait que toi, tu étais en prison au moment des actions sur lesquelles ils enquêtent.
Und also so, ich würde sagen, so eine Siegerjustiz, nochmal Geschichte, Siegergeschichte zu schreiben. Ja.
Tout ça pour faire une justice de vainqueur, pour écrire l'histoire des vainqueurs.
Und praktisch dazu die Kollaboration von, selbst wenn man keine, also wie gesagt, um diese Infos geht es ihnen, Hauptsache man unterwirft sich ihnen und quatscht irgendwas, was sie dann irgendwie auch in Bildern verwerten können oder so, das geht also da um Aufklärung da irgendwie sowieso nicht.
Oui, et surtout pour obtenir notre collaboration. Vraiment, ce n'est pas les informations à obtenir qui les intéressent. L'essentiel, c'est qu'on se soumette et qu'on raconte quelque chose n'importe quoi. Quelque chose à partir de quoi ils puissent construire une image. Mais ce n'est pas du tout la réalité de ce qui s'est passé qui les intéresse.
Also das ist jetzt auch nicht nur unsere Einschätzung, ist es natürlich, da sind wir dazu gekommen, aber ich würde ganz gern von, das ist so eine große Zeitung in der BRD, wo ein Journalist das auch so analysiert hat, da würde ich gerade mal gerne zitieren aus der Süddeutschen Zeitung.
Et il ne s'agit pas juste de notre impression. Bien sûr qu'on a fait cette analyse, mais pas seulement nous. mais je vais faire une petite citation d'un grand journal allemand, le Süddeutsche Zeitung, où un journaliste fait la même analyse.
Und zwar sagt er, von möglichen politischen Motiven in diesem Krieg aber wird bald nichts mehr zu erkennen sein. Die Individualisierung und Privatisierung des deutschen Terrorismus ist dessen letztes Stadium. Was gegenwärtig mit ihm geschieht, ist ein Fall angewandter Geschichtspolitik von rückwirkender Verwandlung des Politischen ins Persönliche.
Et voilà ce qu'il dit. Bientôt, on ne pourra plus rien reconnaître des éventuels motifs politiques à cette guerre. L'individualisation et la privatisation du terrorisme allemand est son dernier stade. Ce qui se passe aujourd'hui avec lui, c'est un cas d'histoire politique appliquée. Il s'agit de la métamorphose a posteriori du politique en personnel.
Also dass eigentlich die ganze Politik liquidiert wird, ja, und so soll es in die Zukunft wirken. Also, das ist aber nicht der Fall. Uns gibt es noch, und das Beispiel, das wir gekämpft haben, gibt es noch.
Voilà, c'est bien une tentative de liquider tout l'aspect politique et de faire que ce soit ça qui reste dans le futur. Mais ça ne marche pas. On est toujours là et l'exemple de notre lutte est toujours là.
Et vous écrivez aussi quelque chose d'intéressant dans le texte que vous avez écrit. Vous écrivez que quand l'État cherche à savoir qui a tiré individuellement, il cherche surtout à faire passer l'histoire de la fraction armée rouge de la catégorie politique à la faire passer dans la catégorie criminelle.
Meine, die Kriminalisierung lief natürlich schon immer auch in den ersten Verfahren, ne? Also das Bandenstruktur und irgendwie das zu versuchen, aber das ist eben nochmal, es war eben nicht genug, ne?
Oui, la criminalisation, ça a toujours été, évidemment. Depuis les premiers procès, ils ont parlé de fonctionnement de gang et de tout ça, mais ce n'était pas assez pour eux.
Sie versuchen das jetzt nochmal, weil sie eben nicht genug gesiegt haben, so das spricht eben auch daraus, ne, dass ihnen da noch was im Fleisch sitzt, was sie noch kippen wollen.
Ils tentent à nouveau cette stratégie parce qu'ils n'ont pas assez gagné. C'est la conclusion qu'on peut en tirer, qu'il leur reste vraiment cette grosse écharde, cette grosse épine dans le pied dont ils veulent se débarrasser.
Also in dem Kalkül, dass jetzt da jetzt Leute was sagen, das ist halt das ist aufgelaufen, ne? Das hat dann nicht stattgefunden.
Mais sous cette forme, cette tactique, ce calcul que les gens allaient se mettre à parler, ça a raté. C'est pas arrivé, quoi.
Ja, wir haben, also außer dass dann Einzelne, wenn die geladen waren, keine Aussagen gemacht haben, die Mitarbeit verweigert haben, gibt es jetzt auch von einigen ein gemeinsamer Text dazu.
Oui, il y a le fait que ceux et celles qui ont été convoqués n'ont pas fait de déposition, ont refusé de collaborer. Et à côté de ça, quelques-uns et quelques-unes ont écrit un texte collectif à ce propos.
Also wir fanden es wichtig, auch uns gemeinsam dagegen zu stellen. Also dass wir kollektiv nochmal öffentlich erklärt haben, wir kooperieren nicht, wir machen keine Aussagen. Und aber auch nochmal diese Kampagne erklärt haben, was ist der Hintergrund davon, was wollen Sie damit?
C'était important pour nous de nous opposer ensemble à ce qui arrivait. De dire publiquement et collectivement, nous ne coopérons pas, nous ne faisons aucune déposition, et d'expliquer cette campagne. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous?
Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er wird.